sait-on ce qui se cache derrière cette petite phrase que nous prononçons de nombreuses fois dans une journée ? Quelle heure est-il ?
Au quatrième top, il sera exactement...
midi et des poussières. Midi et des poussières.
Un rendez-vous presque quotidien sur Radio Barthas.
Des invités, des reportages, des chroniques, de la musique. Une heure d'émission pour raconter ce qu'il se passe ici et un peu plus loin.
Midi et des poussières.
En réalité, pour être tout à fait précis, actuellement c'est le temps atomique, moins 10 secondes, plus une heure.
Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 5 août 2026, il est tout juste midi et des poussières sur Radio Barthas. L'heure de ce rendez-vous radiophonique consacré aux initiatives, aux événements et aux paroles locales, en Sud-Lozère et même au-delà. On ira par exemple tout à l'heure plus au nord, du côté de Nasbinal, qui accueillera le Mordorfest les 14 et 15 août prochains. Et plus au-delà encore, dans le midi de la France, surtout dans le Languedoc et en Provence, l'été c'est la saison des fêtes votives, les fêtes annuelles des villages. Alors votive, ça veut dire qui est en rapport avec un vœu qui est offert pour s'acquitter d'un vœu, car traditionnellement, les fêtes votives sont les fêtes qu'organise un village en l'honneur de son saint patron. C'était donc à l'origine des fêtes religieuses, mais cette dimension s'est effacée aujourd'hui pour laisser place à une grande fête populaire où toute la ville se retrouve et où les visiteurs et les voisins sont bien sûr les bienvenus pour partager plein de moments festifs et conviviaux. Et à Florac, cette fête votive annuelle, vous l'aurez deviné, ce sont les festas, et cette année, elles auront lieu les 14, 15 et 16 août. 3 jours de festivités partout dans la ville, concoctées par le comité des fêtes de Florac et tous ses partenaires, les commerçants, les autres associations, les bénévoles et tous les habitantes, les habitants. Et pour nous en parler, je suis ravie de recevoir aujourd'hui Anaïs Avenas, qui est la présidente du comité des fêtes, Pauline Boiral, sa trésorière, et Amy Merueix, sa secrétaire. Bonjour à toutes les trois.
Bonjour.
Bonjour.
Alors la date approche des festas, est-ce que vous êtes prêtes ?
Oui.
Oui.
Toujours.
De toute façon, on n'a pas d'autre choix que de l'être, donc oui, on l'est.
Avant de commencer, de rentrer un peu dans le détail du programme et de parler de la tournée des Fougas qui aura lieu déjà ce dimanche, est-ce que vous savez depuis quelle année exactement les festas de Florac, elles existent ?
Alors nous, on a un peu fouillé dans les archives de la Lozère. La plus vieille affiche qu'on ait pu trouver, c'était de 1930. Donc... à minima, depuis 1930, les festas, ça existe. Bon, le nom a évolué. Avant, c'était les grandes fêtes de Florac. Bon, entre-temps, ça a changé. Mais voilà.
Et est-ce que vous l'avez, cette affiche ? Il y a écrit quoi dessus ?
Oui, effectivement, on l'a. D'ailleurs, elle est sur nos réseaux sociaux. Mais du coup, on parle des grandes fêtes. Et on voit qu'il y avait des activités dingues avant. Notamment, je crois qu'il y a soit en parapente ou en parachute.
Ah, waouh !
C'était... oui, c'est de grandes choses, vous voyez, choses en grand.
Déjà à l'époque.
C'est ça.
Je voulais aussi vous parler un peu, donc, le comité des fêtes. Souvent, on imagine que c'est un peu des anciens qui s'en occupent. Mais là, vous êtes là toutes les trois, vous êtes toutes les trois des jeunes. Est-ce que ça fait longtemps que vous avez ces rôles de présidente, trésorière et secrétaire, toutes les trois ?
Eh bien, c'est la deuxième année. Là, on a réélu tout récemment cette année le bureau. Donc, nous sommes représentés sur la même composition que l'année dernière. Donc pour nous, en tout cas pour nous trois, c'est la troisième année. Et l'équipe est ouais, vraisemblablement composée de jeunes éléments, on va dire entre 18 et 35 ans, et pour la majorité.
Et c'est important pour vous de vous impliquer dans la vie festive de la ville et que ce soit aussi des jeunes qui soient là pour organiser des choses.
Tout à fait.
Pauline.
Oui, sachant que je pense que c'est aussi un petit peu la spécificité de notre comité des fêtes. On a beaucoup plus de forces vives jeunes que d'anciens. Je pense que c'est vraiment être dans le comité des fêtes à Florac, c'est un rite de passage pour la jeunesse floracoise, où on le voit vraiment. Anaïs, je pense, en parlera mieux que moi, où ses parents l'ont été, ses grands-parents l'ont été, ses tantes l'ont été, et on est déjà en train d'initier sa fille. Du coup,
c'est une histoire de famille.
Ouais, qui n'a pas encore 2 ans d'ailleurs. C'est...
Et qui a ses t-shirts chaque année.
Et ouais, pareil, quand on est jeune, on peut se dire parfois que les traditions, c'est pas forcément le truc qui intéresse le plus, même qu'on peut avoir envie de passer à autre chose, de pas faire comme les parents, d'inventer des nouvelles choses. Mais on peut aussi se dire que c'est important de faire vivre les traditions. Est-ce que ça l'est pour vous ?
Ouais, ben, je commence hein, du coup. Pour nous, ça l'est dans le sens où, pour nos plus anciens, y a une vraie importance de garder ce qu'ils ont connu plus jeunes, ce qu'ils ont eux-mêmes pu instaurer quand ils faisaient partie du comité, ou pas d'ailleurs, mais des choses qu'ils ont pu instaurer ou ou dans lesquels ils ont pu s'investir. Après, aujourd'hui, ben, on rajoute des choses un peu plus modernes, comme un apéro mousse, par exemple, qu'on n'avait peut-être pas il y a 40 ans en arrière.
En 1930, je ne sais pas si...
Non, je ne pense pas. Même s'ils avaient peut-être des choses aussi extraordinaires. Mais c'est garder, oui, certaines traditions, comme les Olympiades, par exemple, qui ont existé pendant plusieurs années, qu'on a essayé de remettre déjà depuis 2 ans. Mais oui, c'est arrivé à faire un joli mélange entre deux nouvelles idées que peuvent apporter ben, les jeunes éléments du comité et ce qu'on a trouvé sympa des années précédentes et qu'on aimerait faire perdurer.
Et alors, parmi ces traditions, eh ben, y a déjà la tournée des Fougasses. Alors, qu'est-ce que c'est ? Moi, je vais être totalement transparente avec vous. Je suis arrivée à Florac au mois d'octobre, donc je n'ai pas encore fait les festas. Ah. Donc je vais poser des questions peut-être un peu naïves, mais je me dis qu'il y a peut-être aussi des auditrices, des auditeurs qui ne connaissent pas encore. Et puis ça fait toujours du bien aussi d'entendre en parler. Donc qu'est-ce que c'est la tournée des Fougasses ?
La tournée des Fougasses, c'est, on va dire, le lancement des festas. C'est le moment où, en fait, nous, on va venir, on a des équipes. Chacun fait son petit char avec des camions, des tracteurs, ce qu'on trouve. On se déguise, on se prépare, on fait un thème par char. Et en fait, on va venir annoncer... au Floracois que la fête arrive, et leur vendre des fougasses. Et en fait, c'est un moment qui est important pour nous, parce que voilà, on vend ces fougasses, mais derrière, ça nous permet donc à nous de payer un orchestre, de payer un DJ. Ça nous aide à financer la fête, donc en fait, c'est un geste que les Floracois nous font à chaque fois qu'ils nous achètent une fougasse. Et puis on commence à amener la fête, l'ambiance. Nous, ça nous met dans le bain aussi un peu. Les gens, ils sont contents, ils montent avec nous sur les chars, ils rigolent. On va voir les papiers et les mamies chez eux, ils sont tout contents, ils attendent ce moment avec impatience. Ils nous font boire un petit verre de blanc, un petit verre de Carthagène comme ils aiment, ils sont contents. Et voilà, c'est vraiment un moment important pour nous.
Et donc ça lance vraiment les festivités, ça aura lieu ce dimanche, donc ça commence à quelle heure la tournée ?
À 9h. À 9h, normalement, on sera en piste. Nous, on se rejoint un petit peu plus tôt sur le parc Maury. Le supermarché Carrefour de Florac nous accueille traditionnellement avec des viennoiseries le matin pour lancer la tournée. Donc un grand merci à lui s'il nous écoute. Et ensuite, eh ben, le cortège s'élance. Chacun part dans le quartier qui lui est attribué, sous le son de la musique d'ambiance matinale. Et la sonnette peut commencer à retentir chez nos Floracois et nos Floracoises.
Et donc, ensuite, les Festas, elles commencent officiellement vendredi prochain.
C'est ça,
le 14 août. Est-ce que vous voulez nous dérouler le programme ou en tout cas nous présenter un peu les moments phares ?
Donc le vendredi, c'est une petite journée. On a pris en considération quand même qu'une partie des festaires allait être encore au travail. Donc du coup, on attaquerait plutôt aux alentours de 18h avec un apéritif. Et c'est l'orchestre du soir qui fait office aussi de banda pendant l'apéro. Les amis de l'école organisent le repas qui se déroulera à 20h. Et on enchaînera à 22h avec une soirée donc avec l'orchestre Destination, qui est l'orchestre que nous avions déjà l'année dernière et que nous avons reconduit cette année.
Et le lendemain matin, le samedi, ça continue ?
Le samedi, c'est le jour phare des festas, c'est-à-dire le 15 août. On articule toujours, nous, notre programme autour du 15 août. Du coup, on attaque avec le traditionnel petit déjeuner au Manoul, qui est voilà, une des traditions qui a toujours été reconduite par le comité des fêtes depuis des années, même quand ce n'était pas nous au bureau. Ensuite, on va avoir une animation pour enfants avec le concours du plus beau mollet cette année.
Du mollet, le mollet du corps humain, de
oui,
la jambe.
Oui, c'est ça.
Mais qu'est-ce que c'est que ce concours ?
Ah, ben c'est ça. Notre monsieur Morin, qui est notre animateur fétiche d'animation pour enfants, qui nous a fait cette proposition pour cette année. Donc ça s'adressera aux plus jeunes, mais aussi aux plus âgés. Et ce sera l'élection du mollet le plus galbé, le plus poilu, le plus sexy. Nous avons toutes catégories confondues, donc tous les participants seront la bienvenue.
Et donc après, à 12h, on va enchaîner avec un apéro tapas avec la peña Louprunol, à la place du souvenir. Tout ça, vraiment, nous, le 15 août, on veut que ça soit au centre du village, d'où le fait de la place du souvenir. Et les tapas seront faits par la famille Matosès, qui, pareil, s'ils nous écoutent, on remercie, qui sont, on va dire, des familles historiques du comité des fêtes, qui nous ont toujours aidés. C'est nos partenaires, on va dire, font partie des partenaires les plus fidèles. On leur doit beaucoup. Ensuite, donc, de 14 à 17h, on va voir les Olympiades sur l'avenue Jean Monestier, sur l'Esplanade, comme l'année dernière. L'année dernière, ça a très bien fonctionné. Voilà, après, cette année, on avait prévu des jeux d'eau, par exemple, qui normalement ne pourront pas être présents à cause...
Des restrictions actuelles à cause des sécheresses.
Donc on a dû un peu changer le programme, mais tout va bien.
Il faut s'inscrire pour les Olympiades ?
Oui, à partir de 13h, okay. Sur place.
Sur place.
C'est ça. 14h30, il y a le concours de pétanque organisé par la pétanque floracoise. Et ensuite, à 19h, on rebascule tout du coup dans le parc Paul Maury. On attaque avec l'apéro avec DJ Marco. On bascule à 20h, donc avec un repas, truffade et saucisses de Lozère avec la petite halte. Et avec une animation de magie qui va être faite de table en table par Alfax. Et ensuite, à 22h, normalement, il devait y avoir le feu d'artifice, mais qui, normalement, ne sera pas...
Oui, nous avons eu la nouvelle, là, tout récemment, du coup, les feux d'artifice vont être interdits jusqu'au 17 août, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on est, avec la municipalité, en train de trouver une autre solution pour quand même proposer quelque chose qui pourrait être du même ordre, mais qui ne pourrait pas porter atteinte... du coup, à la faune aux alentours.
Voilà,
et à la flore,
parce que,
surtout.
Ouais, avec les risques d'incendie, il vaut mieux être prudent, même si malheureusement, on se prive d'un spectacle. Mais...
Oui, mais je pense qu'il faut que la responsabilité avant tout. Donc, ce serait peut-être une animation lumineuse de projection qui serait faite par la même société que nous prenons depuis plusieurs années pour ce genre d'événement. Mais c'est encore en pourparler. Donc, potentiellement, une animation de cet ordre-là à la place du traditionnel feu d'artifice du 15 août.
Et voilà, et donc après à 22h, de nouveau, on finit la soirée avec DJ Marco qui va nous animer la soirée jusqu'à la fin.
Jusqu'au dimanche. Et dimanche, ça recommence encore ?
Et dimanche, c'est le dernier jour. Du coup, le matin, on va dire, on est en douceur. On va être plutôt sur une activité, alors pour les plus jeunes, mais qui peut intéresser les moins jeunes aussi, avec un vélo fleuri, du coup, un parcours vélo fleuri dans le centre de Florac. À midi, on aura un apéro mousse qu'on a souhaité faire à la place du 19 mars. Donc, c'est juste à côté de la Jeunette Verte. Mais comme le disait la veille, Amy, pour la journée de la veille, c'était une volonté quand même du comité de vraiment animer le centre-ville de Florac et de ne pas tout faire au parc Maury. Donc, on s'y attache, on va dire, d'année en année. L'après-midi, il y a un tournoi de sixte qui sera organisé, ainsi que le concours de pétanque en triplette. Et le soir, on rebascule au parc Maury avec le même DJ qui fera l'animation musicale pendant l'apéro et la soirée du coup festive pour clôturer ces festas.
Et alors, vous attendez combien de personnes ? J'ai lu que chaque année, il y avait près de 2000 personnes qui faisaient le déplacement pour ces festas. C'est à peu près ça, ou plus ou moins ?
Ça a été notre grande question des mois précédents pour tout un tas de formalités administratives. Mais je pense qu'on s'en rapproche. Hein, si on cumule le nombre de personnes qu'on brasse sur ces trois jours, c'est assez impressionnant. On garde en général les mêmes personnes du matin au soir, mais on a quand même un croisement de personnes entre les habitants floracois, ceux des villages aux alentours, ceux chez qui nous allons nous faire la fête, je pense, petit clin d'œil au pont de Montvert, par exemple. Mais oui, je pense que 2000, on n'en est pas loin.
Ce qui est quand même énorme, sachant que la ville de Florac elle-même fait autour de 2000 habitants. Donc, Et justement, pour les aspects un peu pratiques, logistiques, je me demandais comment est-ce qu'on adapte la ville à beaucoup de passages, beaucoup d'arrivées de gens. J'ai lu que vous mettiez aussi des navettes à disposition pour...
C'est très important pour nous, ces navettes. On l'a initié il y a combien ? 2 ans, on a attaqué ?
C'est la deuxième année.
C'est important parce que nous, on veut proposer la fête, mais on veut qu'à côté, les gens ils soient quand même responsables. Alors on a toujours, comme on dit, il faut toujours un sab, mais qu'ils aient quand même cette possibilité de rentrer... chez eux, en navette, même en ayant bu 2-3 verres d'alcool. Voilà.
Pour prendre aucun risque avec au volant.
On avait la double contrainte, le stationnement qui à la fois est difficile dans Florac, on le sait tous, hein, même en période un peu moins estivale. Mais le système de navette, voilà, nous rassurait, nous, sur la conduite retour des personnes qui participent à la fête, mais aussi ça permettait d'évacuer un petit peu le pourtour du parc Maury pour que les gens puissent se garer... aisément pour ceux qui avaient vraiment la nécessité d'avoir la voiture et qui ne pouvaient pas prendre la navette.
Alors moi, je vous l'ai dit, ce sera mes premières festas. Est-ce que vous avez un conseil à me donner pour les vivre au mieux ?
Des conseils, on pourrait en donner plusieurs. La bonne humeur déjà, ça c'est le plus important. L'envie de boire un petit coup quand même. Parce que,
de manger un bon bout aussi.
De manger, c'est important.
Je suis plutôt sur le snack du coup, je vous dirais qu'il y en aura un très bon snack.
Pauline vous dira de manger des crêpes surtout.
De manger des crêpes, il y aura plein de choses cette année. On a aussi essayé de se renouveler au niveau de notre menu, au niveau du snack, parce qu'on n'aime pas la facilité, je pense, en fait, dans le comité des fêtes. Dès qu'on a fait les choses une fois, l'année d'après, on se dit, on pourrait aller faire un petit peu plus ou aller un petit peu loin.
C'est ça, on réinvente les traditions.
Ouais. Et c'est ça sur tout, pour l'anecdote, on le dit pour le snack, mais on le voit aussi sur nos activités, c'est vraiment une volonté de toujours se développer, on ne se repose pas sur nos acquis.
Merci beaucoup, on peut retrouver le programme sur les réseaux sociaux du comité des fêtes, Instagram, Facebook et aussi sur le site de la mairie. Alors pour se mettre dans l'ambiance des festas, pour se préparer sur Radio Bartas, est-ce que vous auriez un morceau de musique à nous proposer, à nous faire écouter ?
Je pense qu'on partirait sur l'artiste Nadao avec le morceau L'Encantada.
Complètement.
Je pense que c'est ce qui collerait le plus à notre image. Ça reste une musique entraînante, festive, en langue régionale. Je pense que c'est ce qui colle le mieux à notre image.
Complètement.
Eh ben, merci beaucoup à toutes les trois d'être venues et on écoute ça tout de suite sur Radio Bartas. Nadao, l'encantado.
Merci.
Merci.
Patapim patapam, no sé d'on he sortido. No m'ha pas brigues piatte, m'he perdut su pique, la ham i la set. Patapim patapam, no sé so qui m'arribo. I sei nato pietat che em ballo su camí, que camino tot dret. No sei palo su nom, ta jo que l'he encantado. Ta la bene passaggio que em liqui así tu matí a l'argüell. No sei palo su nom, ta jo que l'he encantado. No hi pas qui pensar, la nuit el dia, lo dia la nuit. Vis a vis, e dice no, e dice adio. Io jamais n'avais voulu, jamais pregar a mi Dio. Ara che plegarlo lui, de la glaise cap baixar. La terra du seu, tau com la periclado, e tu t'ha capirat a renunciar a mei, no hi ha mei com abans, ni lo red de la neu, ni lo verde la prado, ni lo cando mai nan, ni la nadu surei que è curre los ans, no sei pallo solo, ta jo que l'he encantado, e si nei pasta vuoi, ta domà qui segui qui la nirei parlar. No sei pallo solo, ta jo que l'he encantado. Domà co diserei din casi qui viscut son que t'ha pencontrat. Jo tus ten que vis a vis.
Midi et des poussières.
Il est toujours midi et des poussières sur Radio Bartas. On continue cette émission dédiée à l'actualité locale, actualité principalement culturelle cet été, avec un autre événement peut-être tout aussi incontournable que les Festas de Florac, qui aura lieu un peu plus au nord, à Nasbinal, en Aubrac. C'est la 8e édition du Mordorfest, festival de musiques indépendantes, qui a lieu dans le cadre spectaculaire de la cascade du Déroc. Flo et Marion, membres de la collégiale qui organise le Mordor, sont passés par le studio de Radio Bartas la semaine dernière pour nous raconter leur Mordor, d'où il vient et ce qu'il va s'y passer pour cette édition 2026, et pour nous parler aussi de l'importance du cadre, de ce cadre incroyable au cœur de l'Aubrac, qui crée des moments d'énergie live très puissante pour le public et aussi pour les artistes qui viennent y jouer. Flo et Marion du Mordor Fest, tout de suite sur Radio Bartas.
Le festival, en fait, au départ, il est né en 2018. On était juste au-dessus de Florac, d'ailleurs, à Chamballon. Et en fait, c'était trop petit, on avait trop de monde, donc on a déménagé. Et on a rencontré ce lieu, dont la cascade du Déroc sur l'Aubrac. Et c'est vrai que c'est là où il a pris un peu toute sa dimension. Enfin, le lieu est tellement puissant qu'il a donné vraiment une dimension au festival où c'est, comme on dit souvent, c'est lui le patron. Parce que c'est un lieu, ben, aussi au niveau climat, hein, il y fait chaud, il y fait froid, mais il y a une beauté des lumières et tout ça qui fait qu'on est sur une scène assez magnifique. Et il fait vraiment partie du festival. Je sais pas, Flo, si...
Et ben moi je dirais après pousser produire des musiques, enfin aller écouter des musiques de passionnés, quoi. C'est des groupes qu'on n'a pas trop l'habitude d'entendre, qui jouent dans des endroits un petit peu je sais pas comment dire.
Oui, voilà, les musiques indépendantes, comme on dit, c'est des musiques en fait qui sont pas dans les réseaux, les gros réseaux d'industrie musicale, et qu'on n'a pas l'occasion du coup d'écouter ni à la radio ni dans beaucoup de concerts. Et nous, c'est vrai que on est plein de passionnés à vouloir leur donner une place, les mettre en avant, et c'est assez chouette en vrai en live.
Et pour revenir sur l'Aubrac, il occupe une place assez importante même sur l'affiche là du festival. Est-ce que vous pourriez nous décrire cette affiche pour ceux qui nous écoutent et qui l'ont peut-être pas encore vue ?
Alors, en fait, cette affiche, elle est née par rapport au festival de l'an dernier. On avait la chance d'avoir une belle grosse lune rousse, comme ça, qu'on voit. Bien sûr, la vache Aubrac, là-haut, hein, puisque on est dans un champ de vaches. Et puis, on n'a pas que des végans et des végétariens. On mange aussi de la vache là-haut, des bons steaks. Voilà. Et après, avec l'œil de Sauron, voilà, qui fait écho à tout l'univers du Mordor, qui est depuis le début, qui imprègne, on va dire, tout le festival. La zone qu'on veut pas trop voir en vrai. Et en fait, oui, il se passe plein de choses à découvrir. Voilà.
C'est l'endroit qui fait un peu peur, mais où en fait c'est cool d'aller, le Mordor, c'est un peu ça ?
C'est l'endroit qui est pas forcément habituel justement dans ce qu'on défend musicalement, et en fait il y a plein de super belles surprises, quoi. Et je dirais que c'est quand même des groupes qui jouent, c'est-à-dire le live est super important. C'est pas des gens qui ont des sets vraiment tout prêts, qui vont sur scène et qui repartent, quoi. Il y a vraiment une pour sortir la musique qu'ils font, ils sont obligés en fait d'être vraiment là, avec une puissance, une énergie live qui est très importante et qui communique avec le public. Sinon, c'est de la musique qui pourrait pas sortir, quoi. Du coup, il y a un intérêt au live et une puissance qui aime aussi beaucoup le spectacle. Il y a une dimension très spectaculaire qui est pas que de l'écoute musicale, qui est ça bouge, quoi, sur scène, et il y a des belles surprises.
Et ouais, c'est des groupes qu'il faut vraiment voir en live, quoi.
Ça se vit, en fait, ouais.
Et donc il y a deux scènes qui accueillent une vingtaine de groupes là cette année. Il y a beaucoup d'artistes locaux qui viennent de Lozère, d'Aveyron ou de Clermont, enfin localement élargi, on va dire. C'est un choix aussi, ça, de faire venir des artistes du coin ?
Eh ben, c'est un choix, ouais. On essaye de faire jouer les connaissances, les copains. C'est des groupes des fois qu'on a déjà vus dans d'autres concerts, d'autres salles, dans le Massif Central à peu près, là où on sort. Donc voilà, après on essaie de les programmer.
Ouais, c'est vrai qu'on est, on a à l'année, hein, on travaille aussi avec d'autres assos qui font de la musique indé, en Haute-Loire, dans l'Hérault, à l'Odève, à Nîmes, etc. Il y a un gros réseau quand même en France, et on essaie d'aller écouter des groupes, tout ça. Et c'est vrai que pouvoir donner une place à la scène locale, ça nous semble super important pour leur donner aussi. Ce qui est assez chouette, c'est qu'on a aussi la chance d'avoir une technique très pro avec Lozère Logistique Scénique. Donc en termes de d'équipement son lumière, on a les trucs les plus innovants qui existent. Et donc ça permet à des groupes d'avoir des conditions de jeu qu'ils ont jamais eu quoi pour se produire. Et ça c'est assez génial aussi quoi.
Il y a, du coup, sur l'affiche, il y a toute une liste de noms de groupes qui jouent cette année. Est-ce qu'il y a une tête d'affiche ou pas? Ou est-ce que c'est organisé de manière totalement aléatoire? Ou est-ce que le premier nom, Organized Vacation, est-ce que ce serait la tête d'affiche? Ou est-ce qu'il n'y a pas de tête d'affiche au Mordor?
Non, il n'y a pas de tête d'affiche, en fait. On aime bien, justement, donner la place à tout le monde. Après, il y a des groupes, bien sûr, bien plus installés que d'autres. Et non, Organized Vacation, en fait, c'est parce que graphiquement, oui, pour faire la cascade. Après, je voulais pas les vexer non plus parce que ben, Organized Vacation, justement, c'est un groupe où il y a un Lozérien dedans, qui est aussi d'ailleurs président d'honneur du Mordor, le batteur, voilà, Seb Dodé. Donc au moins, je savais qu'il allait pas râler. C'est un gros râleur, voilà. Mais sinon, quand même, on a la chance, voilà, un gros groupe, je dirais, du milieu, d'accueillir deux groupes anglais, USA Nails et The Eurosuite, voilà, qui nous viennent directement d'Angleterre exprès. Donc c'est, on va dire, sur la scène noise européenne, c'est quand même des pointures. Et au niveau de la France, quand même, on a aussi Doppler, qui est un groupe voilà dans la noise qui a joué il y a longtemps, il y a 10 ans, puis ils se sont arrêtés un moment. Et là voilà, ils sortent un nouvel album qui est assez énorme, et c'est des musiciens voilà, au niveau de la du road noise qui sont assez importants sur la scène française, voilà.
Et il y a des propositions aussi assez inattendues, c'est un peu le moins qu'on puisse dire. Je pense à Kenny Carney, par exemple, qui est un duo humain-marionnette d'électropunk. J'ai regardé sur le petit teaser sur votre Instagram. On le voit performer, c'est assez fou. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de Kenny Carney?
Le festival, en fait, on aime bien chaque année avoir au moins une ou deux propositions, on va dire, qui soient justement un peu spectacle. Et Kenny Carney, il est assez...
Ah, Kenny Carney, pardon, j'ai mal prononcé.
Ouais, après, c'est un jeu aussi avec le carnet, la viande et tout, enfin voilà. Il est assez intéressant, il vient plus du milieu, voilà, ça c'est pareil, en termes d'esthétique, on aime bien chaque année avoir aussi du hip-hop et de l'électro, pour pas rester cantonné, même si c'est très varié dans la noise qu'on peut trouver. Voilà, se donner dans la ligne de l'électro et du rap, ça nous permet aussi de pas avoir un festival voilà où il y a qu'une ligne artistique quoi. Et Kenny Carney, voilà, en termes de, il vient plus du milieu tech et tout ça quoi, électro tech tout ça. Et en fait voilà, c'est des esthétiques qui font aussi partie des musiques indépendantes, voilà. Les mouvements du hip-hop et de l'électro, c'est des musiques voilà qui sont nées dans leur underground, dans l'indépendance, et donc c'est pour ça qu'ils ont leur place. Et lui, c'est vrai que voilà, avec sa marionnette.
Voilà, donc en fait, il est sur scène, et en fait, il a un double torse devant son propre torse. Il a le torse d'une marionnette qu'il fait chanter. En fait, c'est assez impressionnant à voir. On dirait un espèce de monstre hybride à deux corps, quoi. C'est assez fou.
Voilà, tout à fait. Ouais, il a sa marionnette attachée à lui plus son masque, mais c'est en fait. Comme il le dit, il dit qu'il est né dans une caravane et qu'en fait ce personnage lui permet d'être sur scène. C'est comme si c'était un peu, enfin c'est un peu schizophrénique. Hein. C'est voilà, mais c'est son personnage de scène, c'est sa marionnette et lui. Et il pourrait pas jouer tout seul quoi en fait. Donc c'est assez intéressant comment il l'a fait jouer, parce qu'il l'a fait chanter, mais en fait la voix, il a un système où la voix passe par le corps de la marionnette. Donc c'est voilà assez inédit et c'est assez dérangeant à voir. Enfin c'est insolite, mais c'est aussi ça joue sur des codes qu'on n'a pas l'habitude, et c'est ça qui est assez chouette aussi quoi.
Et alors au-delà des deux scènes, il y a aussi la Terre du Milieu. Il se passe un peu des moments autres que la musique, notamment pour les après-midi. Qu'est-ce qui se passe alors en Terre du Milieu?
Bah, c'est le off. Il y a quelques vendeurs de vinyle qui seront là avec Mike de Marvejod, la sérigraphie, des photos.
Ouais, il y a même. En fait, c'est on l'ouvre un peu, ça se construit petit à petit. Et il y a aussi là cette année, on va avoir un luthier. C'est assez rigolo. On a voilà un peu des jeux, tout ça, des expos, des artistes. Il y a aussi ouais le dernier cri qui vient de Marseille, donc qui est aussi un voilà avec de la sérigraphie, mais qui font travailler, on va dire, des artistes d'art brut plutôt, des gens qu'on voit pas tout le temps. Et il y a plein de producteurs et d'artisans créateurs, quoi. Il y a des bijouteries, des friperies, des librairies, cyanotypes, peintures. Enfin, voilà, il y a plein de choses.
OK. Et il y a aussi une charte de bienveillance, j'ai vu. Voilà, qui appelle à bannir les discriminations, prendre soin des autres, respecter le consentement. C'est aussi une dimension importante pour que tout se passe bien pendant le festival.
Oui, c'est vrai que depuis le début au Mordor, hein, on a de la chance, en fait, on se rend pas compte souvent, c'est un peu stigmatisé, on va dire, tout ce qui est rock, punk, noise, tout ça. Mais en fait, ce qui est vachement intéressant, c'est que je dirais que les artistes, des fois, ils crachent leur haine sur scène et du coup, à côté, c'est des petits bisounours. Donc, on a quand même un public qui vient beaucoup pour la musique. Donc, c'est des passionnés de cette esthétique. Et en fait, on a un public super bienveillant. Mais voilà, c'est vrai que ça fait partie, nous, de l'ADN aussi du Mordor, d'avoir un espace où, en fait, on a beaucoup de gens qui viennent pour la musique. Donc, qui viennent pas juste pour, je dirais, faire la fête et rien d'autre, quoi. Et du coup, il y a besoin d'avoir un cadre Où tout est safe, où on se sent bien, et voilà, et ça fait partie depuis le début du Mordor, et voilà, chaque année on l'appuie encore plus, on le développe, parce que ben, on est dans un monde hein, où des fois ben, il faut se battre pour ces valeurs là aussi hein, parce que voilà, et ça fait du bien d'avoir une bulle pendant toute, enfin nous pour les festivaliers c'est un week-end, pour nous c'est 10 jours, mais où voilà on vit avec des valeurs humaines où il y a du respect, où on se défend, et en fait ça ressource énormément. Et ça permet d'avoir voilà, plein de relations et tout ça sans aucune crainte de quoi que ce soit. Quoi. Voilà.
Ouais. C'est hyper bienveillant, mais il faut le répéter quand même tout le temps
et
le défendre à tous les festivals. Quoi.
Et il faut aussi respecter l'Aubrac, l'environnement. Et là, on voit en ce moment, c'est vraiment terrible tout ce qui se passe avec les incendies et tout ça. Est-ce qu'il y aura aussi une attention particulière pour les fumeurs, pour faire super gaffe aussi au feu et puis au respect de l'environnement en général? Comment vous appréhendez ça là maintenant dans ce contexte vraiment hyper angoissant de ces méga feux partout?
Il y a tout un truc qui est mis en place avec les pompiers. Voilà, on a une visite des pompiers avant le festival pour voir si tout est OK. Donc on essaie de distribuer tous les extincteurs dans tous les lieux. Dans tous les lieux à risque et autres. Et voilà, on va communiquer en fonction de ça.
Voilà, c'est vrai qu'on a... Bon, là-haut, en tout cas, c'est un terrain pas arboré. Donc ça, déjà, en termes incendiaires, il y a un peu moins de risques qu'à d'autres endroits. Après, on a du coup quand même appuyé le dispositif cette année. On a rajouté effectivement des extincteurs, des points d'eau. Aussi pour les festivaliers, même si sur l'Aubrac, même avec la canicule, en fait, il peut faire chaud la journée, mais le soir, ça tombe toujours. On a quand même un grand système d'ombrage là qu'on ajoute de 60 mètres carrés, des brumisateurs, tout ça. Enfin, en tout cas, voilà, pour tout ce qui est public. Et puis après, effectivement, on va voir avec voilà, les services des pompiers et tout ça en amont, en fait, s'il y a des choses à adapter ou voilà. Mais c'est vrai qu'on voit beaucoup d'événements se faire annuler. Ouais. Et voilà, on sait que c'est possible aussi. Après, on y croit et on croise les doigts et en espérant que la pluie arrive vite avant pour que tout se passe bien.
Ouais, on espère et on en profite pour rappeler à tout le monde d'être hyper vigilant et à surtout vraiment faire hyper attention pour ne pas lancer des départs de feu. Bah, merci beaucoup. J'espère que ce sera une belle édition cette année.
Ben merci à vous de défendre aussi tout ça, c'est super important. Merci.
Et puis venez écouter de la musique voilà, avec nous, là-haut.
Et d'ailleurs, on peut commencer par écouter aussi quelque chose là tout de suite sur Radio Bartas. Est-ce que vous voulez nous proposer un son à entendre
Ouais, Doppler, ouais.
Doppler. Thank you.
at some point where my damaged fingers are done, a black sliding board. Somewhere where my plastic can end, immensity of the grass. I wonder when the broken steering wheel held tightly in my hands, the fear to go down to bottom, especially at night. During the day it's fine. Lost in the meanders of my memories, hidden among fantasies friends. There is nothing else to do. Somewhere where my plastic on the end, immensity of the crowds. I wonder where the broken steering wheel.
C'était Doppler avec The Screening Stops, titre issu de leur nouvel album Pourquoi ce disque, sorti en avril dernier. Doppler, ils seront sur la scène du Mordorfest à Nasbinal, vendredi 14 août.
Midi et des poussières.
Vous êtes bien à l'écoute de Radio Bartas, 107FM ou radiobartas.net. Et tout de suite, comme chaque mercredi, c'est Cinéco qui s'invite sur nos ondes pour nous présenter un film à l'affiche des écrans Cévenol. C'est la chronique Parlons Ciné avec Cinéco.
Parlons Ciné
avec Cinéco.
La rubrique cinéma de Cinéco.
L'association de cinéma itinérant en Cévennes sur Radio Bartas.
Et aujourd'hui, c'est toi, David, pour cette chronique Parlons Ciné avec Cinéco. Bonjour.
Bonjour Raphaël et bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Bartas.
Aujourd'hui, David, tu vas nous parler du film Sauvage.
Un film d'un réalisateur qui s'appelle Camille Poncin et qui, dans les rôles-titres, distingue notamment Céline Salette et Bertrand Belin. Alors, Sauvage, c'est un film... Voilà, sur lequel nous, en Cévennes, on va porter une attention particulière puisqu'il est basé à partir d'une histoire vraie, d'un fait divers dont vous avez peut-être déjà entendu parler à propos de cette jeune adolescente qui vivait à l'écart des autres dans les vallées cévenoles, au milieu des bois, et qui a... pour pouvoir tout simplement survivre, voler dans les différentes maisons. Alors elle a fait l'objet de cette jeune fille, alors dans l'histoire vraie, mais également dans le film, elle a fait l'objet d'attention, de controverses, de débats, les médecins, les gendarmes qui s'en sont mêlés, et voilà.
Donc le réalisateur, il est vraiment, c'est presque du documentaire en fait, il a transformé cette histoire en fiction.
Oui, tout à fait. Et il a déjà réalisé plusieurs documentaires qu'il s'est fait connaître par la réalisation de reportages dans différentes émissions comme Le Monde en Face ou alors le documentaire La Combattante qui est déjà sorti au cinéma en 2022 autour du parcours de l'ethnologue Marie-Josée Tuyena. Mais là, c'est son premier long métrage de fiction.
Et donc le film s'inspire d'une histoire vraie, tu nous l'as dit. Est-ce que pour celles et ceux qui nous écoutent mais qui n'auraient pas entendu de cette histoire que tu as brièvement évoquée au début, est-ce que tu peux nous raconter cette histoire de cette jeune fille dans cette vallée Cévenole ?
Oui, et c'est surtout le cinéaste qui va vous la raconter, puisque lui, il est originaire de ces Cévennes, il les connaît bien, puisqu'une partie de sa famille y vit, et que lui, il a passé pas mal de temps dans son enfance. Alors, dans la vallée dans laquelle il a vécu, se sont installés des néo-ruraux dans les années 70. Beaucoup d'habitants connaissaient l'histoire de Nana, donc, qui est la véritable mère... Et donc de cette jeune adolescente que beaucoup ont vu grandir avant qu'elle ne bascule totalement, passant du stade d'une enfant de la vallée, entre guillemets, à celui de la problème de la vallée, une nouvelle fois des guillemets, selon les propos du cinéaste. Alors le réalisateur a souhaité raconter à l'écran, à travers cette relation mère-fille, qui unit Sam, donc interprétée par Céline Salette, et Anya, qui est interprétée par la jeune comédienne Lou Lampros.
Et alors le réalisateur Camille Poncin, comment est-ce qu'il a préparé ce film et le tournage notamment ?
Alors je le disais, comme il connaissait les véritables protagonistes de ce fait divers, il a fait pas mal d'entretiens. Alors là, c'est là où la partie documentaire revient, puisqu'il a fait pas mal d'entretiens avec surtout donc la mère, Nana, et des amis des deux femmes qui ont inspiré les personnages de Sam et Anya dans le film. Alors, même s'il voulait faire épouser au maximum le point de vue de la mère, le cinéaste voulait faire entendre toutes les personnes que l'on a pu rencontrer aussi bien dans le film que dans la réalité, que ce soit les élus, les médecins, les habitants, les gendarmes, je le disais, etc., etc., qui étaient concernés par cette histoire. Il y a un autre défi auquel le réalisateur a dû faire face, c'est celui de plusieurs interlocuteurs, dont certains étaient d'ailleurs des amis proches, et qui étaient réticents à l'idée de voir leur nom apparaître dans un film. Donc là, on est encore une nouvelle fois dans le mélange entre fiction et réalité, puisque cette histoire avait été source de nombreuses tensions et d'amitiés qui étaient mises à mal. Au final, la vallée s'est une nouvelle fois scindée en deux clans, les partisans de la réalisation du film et ceux qui étaient contre.
Et alors, est-ce qu'on en sait un peu plus sur le tournage du film ?
Oui, le film a été tourné à l'automne 2024, alors à Alès, dans le Gard, mais après dans de nombreuses communes des Cévennes, comme Florac-Trois-Rivières, vous allez le voir, Molaison, Le Pompidou, et Sainte-Croix-Vallée-Française, ou encore Gabriac. Je pense que vous allez reconnaître certaines vallées sans problème lorsque vous visionnerez le film.
Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce film de façon un peu moins factuelle, mais peut-être un peu plus ton ressenti à toi ?
Bon, ce serait un peu une porte ouverte que j'enfoncerais si je disais que les paysages et les décors sont vraiment très très beaux. Il y a vraiment... j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder ces images qui sont en plus tournées donc en format très très large. On y retrouve tout à fait l'ambiance des Cévennes et notamment la lumière, aussi bien au niveau de la luminosité, de la végétation et puis des habitations dans lesquelles on pénètre. Le sujet, lui, est vraiment bien traité. On est vraiment sur une fiction. Vous n'avez pas l'impression de regarder un documentaire et le mélange s'équilibre très très bien. Le sujet, je trouve qu'il pose pas mal de questions sur des thématiques variées, telles que bien évidemment la relation mère-fille, la question de la parentalité, la question du corps médical, de la médecine, de la recherche, mais également une partie un peu enquête avec l'intervention de la gendarmerie et puis le conflit qu'il peut y avoir au sein des habitants de la vallée et jusqu'où on frôle la question également politique. Et on vous encourage à venir le voir à Cinéco.
Eh ben merci beaucoup, David.
Merci.
À bientôt. Et quelques horaires pour voir le film Sauvage en Cévennes. Il y aura une projection à Rousse samedi 15 août à 18h, une à Florac, ce sera le mercredi 19 août à 21h, à Meruès jeudi 20 août à 21h, vendredi 21 août à 21h, toujours ce sera à Saint-Germain-de-Calbert et à Ispagnac, puis à Barre des Cévennes le samedi 22 août à 20h30, et enfin Saint-Enimi, là ce sera en plein air, dimanche 23 août à 21h. Vous pouvez retrouver tout le détail des horaires sur le site de Cinéco, www.cinéco.org. Et une autre information à vous partager, Camille Poncin, le réalisateur du film Sauvage, sera en direct dans Midi et des Poussières dans cette émission mercredi 19 août, donc dans 2 semaines. Et je serai en compagnie de David de Cinéco pour le rencontrer. Soyez à l'écoute. On termine tout de suite cette émission avec la chronique musicale de notre ami Max. C'est l'heure de la Minute de Masque. La Minute de Masque. Un morceau de musique raconté par Max en une minute, enfin un peu plus.
C'est étonnant, non ?
Salut Max.
Salut.
Comment ça va aujourd'hui ?
Bah comme un matin. Voilà.
C'est vrai qu'il est tôt, je t'ai fait venir tôt pour qu'on enregistre un petit peu à l'avance cette chronique.
Mais remarque, il ne fait pas trop chaud. Donc...
Oui, c'est vrai que 10h04, c'est l'aube un peu pour toi.
Ouais, c'est ça, exactement.
Bah écoute, merci. Merci d'avoir fait cet effort. Aujourd'hui, tu vas nous parler d'un morceau de musique, hein, comme oui. Chaque semaine, c'est le principe. Quel est-il ?
Alors, c'est un morceau d'OTH que tu ne connaissais pas, c'est ça ?
Donc... Il se moque de moi, oui, je ne connaissais pas. Je ne suis peut-être pas la seule parmi les auditrices, les auditeurs.
Non, pourtant, c'est quand même super connu. C'est quand même un des groupes phares du rock'n'roll français. Enfin, pour ceux qui aiment le rock'n'roll. Donc des années 80, malheureusement, pour ceux qui n'étaient pas nés. Et ce morceau, il s'appelle « Homme des cavernes modernes ».
Donc toi, c'est un groupe que tu connais depuis...
Depuis toujours, quasiment. Enfin, depuis ma jeunesse,
ouais.
C'est ça. Qui était un groupe un peu à part dans le milieu alternatif, parce qu'il avait vraiment un son super rock. Enfin, il y en avait d'autres, mais... Voilà, et puis ils jouaient fort, et puis voilà, ils avaient des super morceaux. Enfin, il n'y a quasiment rien acheté dans ce groupe-là. Il y a 4 albums et je pense qu'on peut tout le monde peut tout écouter tout le temps.
Et tu les as vus en live aussi beaucoup ?
Oui, voilà. Et c'est vraiment en live, c'était bien.
Et c'était Montpelliérains ?
Oui.
Je ne les connaissais pas alors que j'ai vécu longtemps aussi à Montpellier. Ah. Et j'ai lu un truc intéressant en fait, c'est qu'ils ont... Beaucoup de gens doivent connaître la salle Victoire 2. Ben en fait, c'est eux qui l'ont fondée, cette salle de concert.
C'était une partie du groupe, ouais, mais Spi surtout à l'époque.
Ouais, un des membres du groupe. Mmh. Et en fait, c'est venu d'une grande manifestation qu'ils avaient faite en 1982 devant la gare de Montpellier. Il y avait une cérémonie pour l'arrivée du premier TGV à Montpellier. Il y avait le maire, le préfet, le ministre des Transports et tout ça. Et eux, ils avaient fait une énorme manif pour protester contre le manque de salles de concert de rock à Montpellier. Mmh. Et donc, voilà, suite à ça, ils ont continué des actions, plein d'actions. Et ils ont enfin obtenu de la municipalité de Montpellier une salle qu'ils vont baptiser, du coup, la salle Victoire, parce qu'ils avaient gagné. C'est une belle histoire, quand même. Et ensuite, voilà, cette salle, elle a été transférée dans des nouveaux locaux à Saint-Jean-de-Védas. Et c'est la salle que peut-être certains connaissent aujourd'hui, qui s'appelle la salle Victoire 2.
C'est bien, t'as bien visibilisé.
Non, mais ça m'a...
Alors, tu connaissais Montpellier. À cette époque-là, Montpellier, ça bougeait vraiment beaucoup. Il y avait des salles de répète, il y avait pas mal de groupes, il y avait des bons squat rock. Et ça bougeait bien, Montpellier.
Ouais, j'ai entendu dire ça. Malheureusement, moi, je suis arrivée un peu après cette époque-là, je pense, quand ils ont commencé à un peu aseptiser le centre-ville de Montpellier. On va écouter ce morceau. Alors, pourquoi t'as choisi ce titre-là, donc « Homme des cavernes modernes » ?
Non, c'était pour je sais pas, ça m'est venu comme ça. Pour la morale finale, peut-être.
Nous sommes un groupe sauvage, farouche, mais pas féroce. Nous avons un pied dans l'univers des fantasmes et l'autre dans la réalité. En bas comme des bêtes malsaines et impopulaires, nous obéissons à l'instinct des charognards. Comme lui, nous avons appris la patience. Comme lui, nous croyons que le rock'n'roll est la dernière aventure du monde civilisé.
Le jour où le mal du bien sera légal, quand les mauvais garçons ne seront plus que des garçons, les filles de mauvaise vie plus que d'adorables salopes. De vouloir tous devenir comme des cavernes modernes, de tous vouloir devenir comme des cavernes modernes. Vivre de camp en camp, en hommage aux nomades, de pillage en pillage, en hommage à la rage, écorcher en orgie pour bafouer tous les hommages. De vouloir tous devenir comme des cavernes modernes, de tous vouloir devenir comme des cavernes modernes. chancelons sous les coups de la passion. Et souvent nous vibrons jusqu'au bout de nos fibres. Quelques gorgées d'alcool pour nous donner la pulsation. De vouloir tous devenir comme des cavernes modernes. De tous vouloir devenir comme des cavernes modernes. Oula. Nous ne vivons pas en cadence, mais nous vivons en rythme. Nous martelons en rythme le sol du monde. Et nous scandons en rythme la même incantation. De vouloir tous devenir comme des cavernes modernes. De tous vouloir devenir comme des cavernes modernes. Oui, nous scandons en rythme la même incantation. Plus de flics, plus de curés, plus d'armées. Plus de chefs, plus de flics, plus de curés, plus d'armées. De vouloir tous devenir comme des cavernes modernes. De tous vouloir devenir comme des cavernes modernes. De vouloir tous devenir comme des cavernes modernes. De tous vouloir devenir comme des cavernes. 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 Plus de curés, plus d'armées. Plus de chefs, plus de flics, plus de curés, plus d'armées. Plus de chefs, plus de flics, plus de curés, plus d'armées. Plus de chefs, plus de flics, plus de curés, plus d'armées.
Ça met toujours. C'est pour le réveil. Ça réveille les neurones et on commence à réfléchir, non?
Eh ben, merci beaucoup de nous aider à réfléchir en musique sur Radio Barthas.
Avec plaisir.
Autre chose à ajouter?
Ben non, mais puisque t'as.
J'ai tout dit.
Non, t'as pas tout dit quand même. Mais bon. Ça t'a plu de la première histoire, là, parce qu'ils ont une grande histoire. Mais...
Ouais.
Non, et puis pour continuer, voilà, parce que l'autre jour j'avais mis un morceau des Rats, et au niveau rock'n'roll ils sont un peu comparables, même milieu alternatif, mais plus rock'n'roll. Puis après, tu pouvais parler pour ceux qui s'y intéressent, ils ont fait un autre groupe, là, un peu plus folk, les Naufragés, et c'était à peu près le même groupe. C'était Psy, le même chanteur, le guitariste. Et c'est sympa aussi. Bon, c'est pas moi rock'n'roll, mais c'est sympa aussi.
Ah oui, mais les Naufragés, c'est là où ils chantaient en des trucs traditionnels bretons ou occitans un peu.
Ouais, voilà. Mmh.
Et ben merci pour cette découverte.
De rien.
Et ben pas à la semaine prochaine, mais à la semaine d'après.
Avec plaisir.
Salut Max.
Ciao.
Et voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et bonne fin de journée sur Radio Barthas.
Sait-on ce qui se cache derrière cette petite phrase que nous prononçons de nombreuses fois dans une journée? Quelle heure est-il?
Au quatrième top, il sera exactement...
midi
et des poussières.
Midi et des poussières.
Un rendez-vous presque quotidien sur Radio Barthas.
Des invités, des reportages, des chroniques, de la musique. Une heure d'émission pour raconter ce qu'il se passe ici et un peu plus loin.
Midi et des poussières.
En réalité, pour être tout à fait précis, actuellement, c'est le temps atomique, moins 10 secondes, plus une heure.